Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Amis auditeurs, bonjour. Nous poursuivons notre étude des épîtres de Jean avec la leçon numéro 2 qui concerne la période du 4 au 10 juillet 2009. Et cette semaine, le titre est le suivant, « Faire l'expérience de la parole de la vie ». Voici tout d'abord quelques versets à mémoriser, quelques lignes à mémoriser. 1 Jean chapitre 1er, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Les questions clés maintenant pour cette semaine. Pourquoi Jésus est-il la parole de vie ? Quel est le but de Jean en rédigeant cette introduction ? Comment pouvons-nous être, encore aujourd'hui, les témoins oculaires de Jésus ? Et quel rôle la communauté joue-t-elle dans la vie d'un chrétien ? Un homme accusé de meurtre comparut un jour devant un tribunal. Il jurait avec véhémence qu'il était innocent, qu'il n'avait pas tué, et qu'il n'était même pas là au moment du crime. Il était si convaincant qu'on était tenté de le croire. Mais des témoins vinrent ensuite à la barre. L'un après l'autre, ils déclarèrent la même chose. Ils avaient vu l'accusé sur la scène du crime. Ils l'avaient vu, certains l'avaient même entendu, commettre le crime. Et même si ces récits différaient dans les détails, suivant l'endroit où chacun s'était trouvé par rapport à la scène du crime, les témoignages furent assez accablants pour que la culpabilité de l'homme soit vraiment établie. De la même façon, Jean déclare dans son introduction qu'il appartient au petit cercle de témoins qui, ayant vu Jésus et ayant vécu avec lui, peuvent faire part à d'autres de cette expérience qui a changé leur vie. Voyons maintenant le détail de cette étude avec la journée du dimanche 5 juillet 2009. Et il s'agit d'une introduction à la première lettre de Jean. Nous allons lire et nous allons réfléchir à ce que Jean nous dit, veut nous dire par ses mots, quelle espérance retirer de ses paroles. Et nous lisons ces versets qui se trouvent dans 1 Jean chapitre 1er, les 4 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, la vie a été manifestée, nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Jean commence par affirmer qu'avec d'autres, il a été un témoin oculaire de la parole de la vie. Ensuite, il explique davantage ce qu'est cette vie, et il insiste là-dessus. Réfléchissons maintenant aux deux choses qui, selon Jean, doivent résulter de son témoignage concernant la parole de la vie. Au verset 1 et 3, Jean apporte sept précisions. Premièrement, ce qui était au commencement. Deuxièmement, ce que nous avons entendu. Troisièmement, ce que nous avons vu. Quatrièmement, ce que nous avons contemplé. Cinquièmement, ce que nous avons touché. Ce que nous avons vu, entendu. Puis il termine en disant, « Nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Au verset 2, qui est une incise destinée à éclaircir son propos, il fait une quadruple énumération qu'il conclut par la phrase, « Et nous vous annonçons la vie éternelle. » D'après ces passages, Jean semble vouloir nous laisser découvrir par nous-mêmes qui est vraiment Dieu, comme il l'a appris lui-même à travers Jésus. Il veut que nous connaissions par nous-mêmes la vie éternelle, la communion et la joie qui se trouvent en Jésus, ce Jésus qu'il a entendu, vu et touché. Voici quelques lignes de méditation pour terminer cette journée du dimanche. Cette joie qui est dans le Seigneur, comment la comprenons-nous et quelle expérience en avons-nous fait? Comment comprendre cette promesse de joie quand notre vie, même à nous chrétiens, n'est souvent que souffrance et chagrin? Nous abordons maintenant la journée du 6 juillet 2009, et là, il s'agit de comparer 1 Jean 1 et Jean 1, donc de comparer l'Épître à l'Évangile. Ceux qui connaissent l'Évangile de Jean sont surpris lorsqu'ils entreprennent la lecture de sa première Épître, car l'introduction est la même dans les deux livres. Et nous allons lire dans 1 Jean 1, 1 à 5, et comparer avec Jean 1, 1 à 5, et nous allons découvrir quels éléments sont similaires. Lisons donc tout d'abord 1 Jean 1, 1 à 4, 1 Jean 1, 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Lisons maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, les 5 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ces deux extraits commencent de façon presque identique. Ils évoquent une période passée, avec l'expression « au commencement », qui apparemment fait référence à Genèse, chapitre 1er, verset 1er, c'est-à-dire à la création. Tous deux font la distinction entre Dieu le Père et la parole, et les citent non loin l'un de l'autre, en un lien étroit. On retrouve également dans ces deux passages les notions de vie et de lumière. On le voit, ils ont beaucoup de points communs. Mais il existe aussi des différences entre eux. Et sur quoi, voyons maintenant sur quoi Jean insiste dans Jean, chapitre 1er, les 5 premiers versets, alors qu'il ne le fait pas dans 1 Jean, chapitre 1, et les mêmes versets, les 5 premiers. L'évangile de Jean souligne fortement que Jésus est Dieu et Créateur. Même si dans 1 Jean, 1 chapitre 1er verset 3, le titre complet « Son Fils Jésus-Christ » fait ressortir à la fois l'humanité et la divinité de Jésus, dans l'introduction, le mot « Dieu » n'est pas directement appliqué à Jésus, comme c'est le cas dans l'Évangile de Jean. Ce dernier est également très clair concernant le rôle créateur de Jésus. Rien n'est venu à l'existence, c'est-à-dire rien n'a été créé sans lui. Jean n'aurait pu être plus explicite à propos de la divinité du Christ, mais aussi de son rôle créateur. De son côté, dans sa première lettre, Jean insiste sur le rôle des témoins et de leur déclaration, et donc sur l'autorité dont ils sont investis. Une mise en relief que l'on ne trouve pas dans l'évangile de Jean, dont le ton est plus détaché, moins personnel. Pris ensemble, ces deux passages révèle sur Jésus des vérités qui jouent un rôle essentiel dans le plan du salut. Voici maintenant quelques lignes pour méditer à la fin de cette journée du lundi. Pensons à tout ce que nous avons appris sur la vie de Jésus. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il souffert? Demandons-nous également pourquoi il a fait tout cela. Ce faisant, souvenons-nous que cet homme était aussi Dieu, le Créateur. Et quelle espérance et quel encouragement ces vérités nous apportent-elles? En quoi peuvent-elles nous aider à mieux affronter le stress et les soucis de la vie? Nous poursuivons avec le mardi 7 juillet 2009, et là il s'agit de la parole de la vie. Nous allons étudier ce que signifie l'expression « la parole de la vie » et en quoi elle s'applique à Jésus. 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er, mentionne la parole de la vie. On trouve également le mot « parole » dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3, où il se réfère très précisément à Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, le cavalier monté sur un cheval blanc est aussi appelé la parole de Dieu, en faisant référence à Jésus. Puisque dans la littérature johannique, le mot « parole » désigne Jésus, dans certains contextes, il est très probable que ce soit également le cas dans 1 Jean 1 et verset 1. En ce qui concerne le mot « vie », Jésus a déclaré être le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, le mot « vie » dans 1 Jean 1, verset 2, se rapporte certainement aussi au Christ. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit la parole de la vie. Même si certaines personnes ont prétendu que l'expression « parole de la vie » faisait allusion à la proclamation de l'Évangile, il est évident que c'est de Jésus qu'elle parle. En effet, s'il est possible d'entendre l'évangile de Jésus avec ses oreilles, il est plus difficile de l'imaginer, tout comme il est impossible de toucher de ses mains la parole de la vie dans son sens de proclamation de l'évangile. Il est beaucoup plus logique, en revanche, d'entendre, de toucher une personne. Par ailleurs, la phrase « la vie était auprès du Père et s'est manifestée à nous » suggère également que Jean pensait à une personne quand il mentionnait la parole et la vie. Voici maintenant une question que nous utilisons pour terminer cette journée. Si nous admettons que Jésus est la parole de la vie, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Nous nous trouvons maintenant au mercredi 8 juillet 2009 et il s'agit des témoins oculaires. Beaucoup de gens aiment aller assister à un concert ou à une réunion politique. Ils veulent comprendre par eux-mêmes ce qui s'y passe, participer personnellement à l'événement. Ils peuvent ensuite partager avec d'autres ce qu'ils ont entendu. Il arrive aussi que certaines personnes soient les témoins d'un accident et qu'elles soient alors appelées à témoigner. Les apôtres, eux, ont été les témoins oculaires de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Ces événements liés au Christ ont un tel impact sur leur vie qu'ils n'ont pas pu s'empêcher d'en parler à d'autres. C'est le cas de Jean dans 1 Jean, chapitre 1er, les 4 premiers versets. Il affirme avoir été le témoin oculaire de Jésus. Il étaye sa déclaration en disant que non seulement il a vu Jésus, mais il l'a aussi touché et entendu. Il reprend plus loin en essayant de démontrer qu'il a vraiment vécu près de Jésus. Jean n'est pas le seul auteur biblique à parler avec puissance des événements dont il a été le témoin. Et lisons maintenant quelques versets qui ont de... voyons ce qu'ils ont de commun avec 1 Jean, chapitre 1er, les 3 premiers versets. qui parle et dans quel contexte. Tout d'abord, nous lisons dans le Deutéronome, chapitre 4, les deux premiers versets. « Maintenant, Israël, écoute. Pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. » Nous voyons maintenant dans le livre des Actes, chapitre 4, les versets 18 à 20. Et là, il s'agit de Pierre et Jean, au nom de Jésus. « Alors, ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et enfin, un autre texte, 1 Corinthiens 15, versets 7 à 9, il s'agit de l'apôtre Paul, de sa vision. « Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après tous, il s'est fait voir à moi-même, à l'avorton que je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il ne nous est pas possible aujourd'hui d'être les témoins directs des événements appartenant à la vie de Jésus ou à l'histoire biblique. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être des témoins oculaires de la réalité du Christ et de ce qu'il a fait pour nous. D'une certaine manière, notamment dans notre monde postmoderne, notre histoire personnelle, le récit de ce que nous avons vu Jésus accomplir dans notre vie, peuvent être un témoignage de l'existence et de la bonté de Dieu aussi puissant que les événements historiques décrits dans la Bible. Eh bien, nous poursuivons avec le jeudi 9 juillet 2009. Et là, cette journée a pour titre « La communion des croyants ». Quelqu'un a fait remarquer que Dieu n'avait pas de petits-enfants, seulement des enfants. L'expérience chrétienne n'est pas héréditaire. Il est nécessaire que nous choisissions dans notre cœur de nous abandonner à Jésus. Personne ne peut faire ce choix à notre place. C'est à nous de prendre la décision et notre abandon doit être total. En ce sens, être chrétien est une expérience très personnelle et très solitaire. De notre côté, dans ces quelques premiers versets, Jean ajoute une dimension supplémentaire à ce que signifie le fait d'être chrétien. Il nous invite à accepter son témoignage concernant Jésus et à faire aussi l'expérience de la communion avec celui-ci et avec d'autres chrétiens. En d'autres termes, le fait de proclamer Jésus est une façon d'édifier la communauté des croyants. Accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, comme celui qui donne la vie éternelle, signifie que l'on se joint à cette famille. Nous allons voir maintenant, d'après 1 Jean, les trois premiers versets, quels sont les éléments de cette communion. Lisons donc 1 Jean 1 à 3. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » C'est Jésus lui-même qui est le fondateur de sa communauté ou son Église, et il veille sur elle comme un berger prend soin de son troupeau. Jésus et son Église sont liés. Le fait de proclamer Jésus et l'Évangile permet d'entrer en communion non seulement avec le Père et le Fils, mais aussi avec les autres croyants. Il y a à la fois un lien invisible avec le ciel et un lien très visible entre les croyants. Les chrétiens sont bénis parce qu'ils n'ont pas à gérer leur vie seule, isolée des autres. Ils font partie de la communauté de la famille du Christ sur la terre. Nous allons lire maintenant comment cette communion chrétienne est décrite sous une forme idéale dans le Nouveau Testament. Nous allons voir ceci dans le livre des Actes, chapitre 2 et le verset tout d'abord, le verset 42. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ensuite, nous poursuivons avec l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 3 à 5. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Le passage que nous étudions dans 1 Jean se termine au verset 4. L'objectif de Jean est que les chrétiens jouissent d'une communion avec Dieu et avec la communauté des croyants, mais aussi que leur joie soit complète. Il est possible que le verset 4 renvoie au précédent. Notre joie est complète parce que Jésus, la vie éternelle, est apparu. Il se peut également qu'il anticipe le reste de la première épître de Jean, où nous sont présentés Jésus et le salut qu'il procure, ainsi que la vie avec Dieu, c'est-à-dire une vie d'amour. Il annonce aussi peut-être l'apparition future du Seigneur. Ainsi, 1 Jean, chapitre 1, 1 à 4, pourrait se référer à la période allant de l'époque où le Christ préexistait et jusqu'à son retour. Cette semaine se termine maintenant par le vendredi 10 juillet 2009. Et pour aller plus loin, nous avons un extrait du commentaire biblique adventiste, volume 7. Jean, qui a connu personnellement le Christ, désire partager son expérience avec ses lecteurs, afin que ceux-ci connaissent la communion à laquelle lui-même participe avec le Père et le Fils. Tout en exprimant ce désir plein d'amour, il confirme la divinité, l'éternité et l'incarnation, et donc l'humanité du Fils. Il communique sa merveilleuse expérience à l'aide de mots simples, mais bien mis en relief, de sorte que ses lecteurs, ceux de son époque et de la nôtre, n'aient aucun doute quant au fondement de la foi chrétienne et quant à la nature et à l'œuvre de Jésus-Christ. Fin de citation. Voici quelques questions à méditer maintenant pour terminer cette semaine. Qu'est-ce que l'expérience des autres nous apprend sur le Seigneur? De même, quel aspect de notre témoignage peut leur être utile? Revoyons tout ce qui concerne la communion. Pourquoi est-elle si importante pour les croyants? Qu'arrive-t-il à ceux qui cherchent à avancer seuls en dehors du corps du Christ? À l'opposé, quel danger potentiel menace ceux qui dépendent trop des autres ou de l'Église? Et comment trouver un juste équilibre? Comment pouvons-nous aider notre Église locale à être davantage attentive aux besoins de ses membres et à atteindre certains des idéaux communautaires qui caractérisaient l'Église primitive? Eh bien, ces quelques questions terminent notre semaine d'études. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Jesus is Lord.